Merci, Damien. La riche, donc je donne la parole à David Bernard.
Merci. Alors, je suis parti d'un passage du séminaire de Lacan au PIR qui m'a semblé en fait intéressant pour aborder à partir de la psychanalyse cette question de l'inégalité entre hommes et femmes. Un passage quand même assez saisissant. Voilà ce qu'il dit. On confond, on se précipite dans la négation de la différence sexuelle. On prétend l'effacer par l'usage du signe égal, la femme égale l'homme. Et il poursuit, ce qui est formidable, n'est-ce pas, je vais vous le dire, ce n'est pas toutes ces conneries, c'est l'obstacle qu'elles prétendent, mot grotesque, transgresser. Donc, voilà un peu le passage là, qui va faire un peu l'objet de mon commentaire, et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le ton là, de Lacan, possiblement son agacement, voire sa colère, autant que son désir de faire ici une coupure. Une coupure pour mieux réveiller son auditoire, me semble-t-il. Et d'ailleurs, juste avant d'avoir dénoncé ce petit passage-là, il dit que ce qu'il va dire, je sens que ça va provoquer des remous. Donc il a bien l'idée que ça va avoir un certain effet. Mais alors, au-delà de l'anecdote, ce qui m'a semblé d'abord intéressant concernant, oui, c'est cet agacement, disons pour le moins, de Lacan, c'est que dans son enseignement, il y a quand même bien des exemples où on voit Lacan qui s'emporte. Et parfois de façon bien plus vive. Hein, bien plus vive. Je renvoie, exemple parmi d'autres, à un de ses impromptus, non pas celui qui est paru dans le séminaire L'envers la psychanalyse, mais un qui est resté encore inédit. Et à y regarder de plus près, quant à ces emportements de Lacan, il me semble qu'on, souvent, toujours, je ne sais pas, mais que très souvent, on voit qu'il y a un enjeu éthique pour la psychanalyse, qui est là concerné. Donc la question, pour ce passage-là que j'ai cité, c'est pourquoi cet agacement, voire pourquoi cette colère ? Alors, je vais d'abord à ce qui me semble être une évidence, Lacan, disant que, ce qui était à l'époque un slogan, c'est pas rien à l'époque à laquelle il dit ça aussi, disant que le slogan « la femme égale l'homme », c'est une connerie, évidemment, disant qu'il ne s'oppose pas du tout à l'égalité sociale des femmes et des hommes, laquelle constitue évidemment ce plan du droit, un progrès majeur, et on sait, un progrès toujours fragile. Mais plus encore, pour démontrer ça, on peut souligner comment Lacan a théorisé très précisément l'une des raisons pour lesquelles, justement, sur le plan social, certains privilèges étaient laissés aux hommes. En voici donc l'argument, tous les cas tel que je l'ai compris, ce qu'il appelle le principe du social. Le principe du social consiste dans la loi d'un échange. La loi d'un échange qui s'origine de la castration. Alors, juste quelques petites remarques sur la castration, et puis à l'esprit que voilà, tout le monde n'a pas forcément travaillé ces questions-là, puis qui plus est, c'est toujours la castration difficile à digérer. Alors, qu'est-ce que la castration ? Le fait que le sujet, dans ce commentaire-là que fait Lacan, le fait que le sujet ne peut pas prendre sa jouissance en lui-même, et que donc, pour cette raison, il doit la trouver ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire dans quelque chose qui va prendre valeur. Valeur de cette jouissance qu'il a perdue. La jouissance pénienne va en être le paradigme. Et là aussi, pour une raison très précise, qui est liée aux caractéristiques de l'organe masculin, sous lesquelles Lacan insiste beaucoup, qui est que cette jouissance, de fait, est une jouissance limitée. Limitée puisqu'il y a détumescence au moment même où il y a jouissance. Donc une jouissance limitée et donc isolable, pour ne pas dire coupable. Enfin, cela, ça a été souvent commenté, la femme, quant à elle, du fait même de ne pas posséder l'organe pénien, viendra prioritairement représenter cette valeur phallique d'abord soustraite à l'homme. C'est dans ce passage qu'on retrouve que Lacan évoque notamment la question de la mascarade féminine, où il indique que la femme se révèle être ce qu'elle est depuis toujours, la porteuse de bijoux. Donc la castration, c'est aussi le nom de cette soustraction faite à l'homme de la valeur d'usage. C'est important parce que c'est à partir de ces notions de valeur d'usage, de valeur d'échange que Lacan fait son commentaire, soustraction faite à l'homme de la valeur d'usage de la jouissance pénienne, puis de son passage au rang de valeur d'échange. Une façon parmi d'autres de définir la castration. Mais alors la question qui se pose à partir de là, c'est est-ce que pour autant la valeur pénienne, la valeur phallique de l'homme, disparaît de la circulation? Ça, c'est la question qui se pose. Et sa réponse, c'est que loin s'en faut. Loin s'en faut, au point que, dit-il, l'homme, comme valeur pénienne, ça circule très bien dans le social. Sauf que ce qu'il ajoute, c'est que ça circule très bien, mais clandestinement. Pourquoi ? Eh bien, Lacan nous propose un paradigme de cette circulation clandestine de la valeur phallique de l'homme. Ce paradigme, c'est l'ascension sociale. L'ascension sociale. Son principe est suivant. Puisque dans l'acte sexuel, l'homme ne peut être reconnu comme valeur phallique d'usage, du fait de la castration, c'est alors dans le lien social, et notamment dans le champ du travail, qu'il pourra tenter de retrouver cette valeur qui, donc, dans l'imaginaire, serait censée assurer sa puissance. Autrement dit, à la détumescence rencontrée de structures dans le lien à l'autre sexe, vient répondre la dite ascension sociale, cette fois, où les hommes se transmettront entre eux leurs pouvoirs, tentant de les assurer, ces pouvoirs, et tentant de les sauvegarder. Autrement dit, la transmission sera clandestine dans la mesure, dit Lacan, où elle se fait par la main gauche. Autrement dit, dans la mesure où elle se fera à l'abri de l'autre sexe, tentant donc d'échapper à la castration. Façon, en somme, selon la formule consacrée, de faire bande à part. En effet, le côté club. Tel est pour Lacan le véritable fondement homosexuel, à écrire avec deux M, si on le relit avec la fin de son enseignement, le fondement homosexuel de toute société. De toute société en tant qu'elle vise à maintenir cette valeur phallique comme valeur d'usage. Et il est vrai que l'ascension sociale est restée, voire reste encore longtemps, un privilège masculin. Un privilège jalousement gardé et en effet ne se transmettant que par la bande. Conclusion de Lacan sur ce point, et conclusion de Lacan juste après qu'il ait évoqué la SPA, eh bien, il propose ceci, que la société, sur le plan social, la société, c'est toujours la SPL, la société protectrice de l'homme. Donc, on voit comment Lacan n'ignore pas du tout les inégalités sociales entre les femmes et les hommes, et qu'il permet au contraire de déchiffrer, à partir de la psychanalyse, un de leurs fondements. Je dis un de leurs fondements parce qu'il y en a sans doute d'autres. Et il y ajoutera d'ailleurs d'autres remarques, en effet, ouvrant, elles aussi, une voie de recherche concernant l'articulation très précise entre le non-rapport sexuel et la façon dont l'exploitation sociale dans le travail, notamment, tente d'y suppléer. Je le souligne parce que je trouve qu'on questionne peut-être trop peu en psychanalyse cette clinique du travail. Mais j'en reviens donc à ce dont je suis parti. cette ferme opposition de Lacan à l'équation « la femme égale l'homme ». Pourquoi cette opposition ? Le passage est en fait assez clair. C'est que Lacan s'oppose au fait que, défendant cette égalité d'un point de vue sociétal, on en vienne pour autant à rejeter sur un plan subjectif le réel de la différence entre les sexes. Et ça, pour lui, c'est une faute éthique, pour les psychanalystes. Une faute éthique, d'où, me semble-t-il, sa colère. En effet, sur le plan de l'inconscient, quel est ici l'enjeu ? C'est que, premièrement, affirmer que la femme égale l'homme, ça relève d'une confusion. Une confusion qui vient nourrir la croyance dans le rapport sexuel. Lacan utilise souvent ce terme de confusion. Par exemple, dans le passage suivant, où il nous dit « Quand je vous dis qu'il n'y a pas de rapport sexuel, je n'ai pas dit que les sexes se confondent. Bien loin de là, dit-il, malin. Ainsi, rejeter la différence entre les sexes peut être une façon de vouloir faire se confondre, en effet, l'homme et la femme, faire se confondre au sens de viser cette union-là du rapport sexuel, et donc de prétendre pouvoir transgresser, c'était le mot qu'il avait arrêté dans le passage que j'ai cité, et de prétendre pouvoir transgresser le réel du sexe. La négation de la différence des sexes, en effet, donc, pour lui, est une connerie. Mais une connerie au sens lacanien. C'est-à-dire une connerie en tant qu'elle est une tentative de masquer, de boucher, le malentendu entre les sexes. Voilà, me semble-t-il, ce à quoi ici Lacan s'oppose, et qu'il s'y oppose sachant les conséquences symptomatiques de ce refoulement de la différence, non seulement sur le plan subjectif, mais aussi sur le plan du lien social. Puisque, dans sa logique, rejeter la différence, ça conduit toujours à produire une ségrégation. Il y aura un effet retour de ça. Dans le cas présent, ça conduirait à promouvoir un régime du tout phallique, et pour les hommes, et pour les femmes. Autre slogan, la femme est un homme comme les autres. Il est vrai que sur ce point, la référence au phallus, en cela on peut être d'accord jusqu'à un certain point avec cette thèse, c'est que la référence au phallus, en effet, n'est pas l'apanage des hommes. Ça aussi, Lacan y a beaucoup insisté. La jouissance phallique, les femmes n'en sont pas privées, dit-il avec une équivoque évidemment très bien choisie. Et il insiste, il n'y a pas, c'est tout dire, d'une nature antiphallique des femmes. Il insiste beaucoup là-dessus, précisément pour répondre à, notamment à certains de ses élèves de son école engagés dans le féminisme. Toutefois, aucune raison pour autant, même si donc phallus concerne aussi les femmes, aucune raison pour autant d'en conclure que la femme est un homme comme les autres. Ainsi que ça lui a été aussi reproché, parce qu'il a eu aussi cette critique-là. Quoi ? Vous dites que les femmes aussi ont rapport avec le phallus, mais alors c'est donc que pour vous, la femme est un homme comme les autres. Parce qu'en effet, il y a eu plusieurs courants féministes. Hein, donc certains défendaient cette thèse-là, d'autres au contraire s'y opposaient. Et bien, à cette critique qu'on lui adresse, Lacan répond « La jouissance phallique ne les rapproche pas des hommes, puisqu'elle les en éloigne plutôt. » Et de fait, puisque la jouissance phallique est précisément ce qui fait obstacle au rapport sexuel. Donc ici, l'enjeu, ça devient plutôt de démontrer où passe la différence entre hommes et femmes dans leur rapport au phallus. Enfin, on sait l'appui que prend Lacan pour établir cette différence dans le rapport au phallus. Beaucoup de références là-dessus chez lui, notamment cette petite phrase disant que le phallus, une femme, pas toutes le veut. Pas toutes le veut. Donc si différence sexuelle il y a, celle-ci n'est pas à situer sur un plan anatomique, entre ceux qui l'auraient et celles qui ne l'auraient pas, moyennant quoi, j'avais déjà évoquer ça, moyennant quoi, ça serait une fausse différence. Cette différence-là. C'est Jacques Derrida qui a souligné ça. Ça serait une fausse différence, puisqu'elle prendrait pour point commun le phallus. Donc il y aura en fait un même référent. Là où, au contraire, Lacan nous invite à situer la différence que produit le réel du sexe sur un plan, non pas moral, mais donc éthique, et sur un plan logique, entre le tout phallique et le pas tout. Ça, c'est une différence qui ne produit pas de ségrégation, mais qui fait place à une altérité, laquelle altérité peut être incarnée par une femme ou autre. Au terme, j'en arrive à ma conclusion, on retrouve ici finalement une prise de position habituelle chez Lacan concernant les inégalités de son époque. Notamment par rapport aussi au capitalisme, etc., au racisme aussi. Une prise de position habituelle, c'est-à-dire qu'on retrouve chez lui d'abord un soutien du refus d'où s'origine la protestation sociale. Ça pourrait être vraiment, je crois, démontré chez Lacan, hein, le désir d'autre chose. On pourrait parler notamment de la pétition qu'il avait signée, qui a fait démarrer mai 68, le texte de pétition écrit par Maurice Blanchot. Et Lacan signant cela, où précisément Blanchot évoque cette dimension du refus. Mais à partir de là, une réponse de Lacan, et une réponse qui cette fois ne vient pas renforcer paradoxalement le discours que cette protestation critique, mais une réponse qui vient, qui tente, qui propose de l'interpréter. De là seulement, démontre-t-il, peut s'ouvrir la possibilité d'un autre rapport à l'autre, et la sortie possible d'une logique exclusive du tout. Et d'ailleurs, le pouce à l'égalité ne pourrait-il relever parfois, parce qu'il y a bien des vertus, hein, par ailleurs, sociales, hein, sur lesquelles il n'y aurait pas eu tout un certain nombre de progrès, mais ce pouce à l'égalité ne peut-il relever parfois de ce fantasme de l'universalisation du discours scientifique et capitaliste avec ses effets de ségrégation ? Autrement dit, un pouce à l'égalité comme une autre façon possible de rejeter la castration, c'est-à-dire de forclore cette différence irrattrapable qui sépare, autant qu'elle fait lien, entre le sujet et l'autre. À cet égard, Heidegger avait isolé le vœu du discours de la science, abolir la distance. Abolir la distance, ce qui toujours, ajoutait-il, relève d'une volonté de domination, voire de destruction, hein, de ce dont on voudrait ne plus être à distance. Du coup, je me disais qu'une histoire de ce signe égal, la consoline expression, hein, l'usage, dans le passage dont je suis parti, il parle de l'usage de ce signe égal, eh bien peut-être qu'une histoire de ce signe égal resterait à faire, où on pourrait questionner, entre autres, la fureur de résoudre. Voilà. Merci.